Interview.
32
Aujourd'hui, nous recevons l'association La 32e qui organise la CREDH Urban Race, une course de descente de VTT. Pour commencer, qui êtes-vous ?
Donc on se présente, moi je suis Léo Bordaz, donc je suis au lycée du Diwar en terminale et en sport nature.
Voilà, moi Mathieu Lemonté, donc également en terminale au lycée du Diwar, également en sport nature. Je suis trésorier de l'association.
Moi je suis président et du coup je suis passionné de vélo, c'est moi qui ai motivé Mathieu pour monter cet événement.
Voilà, moi j'ai fait un petit peu d'organisation, principalement en trail, et donc on s'est rencontrés, enfin, ça fait 3 ans maintenant qu'on se connaît avec Léo, et on s'est monté cette idée du coup de monter cette course de vélo de descente, de par moi, ma petite expérience en organisation sportive, et de par l'implication de Léo en VTT de descente.
C'est la première fois que vous l'organisez cette course ?
Donc oui, c'est une grande première, hein. Déjà dans la région, c'est quelque chose qui est unique en région Rhône-Alpes. Donc on innove un peu dans ce domaine-là, et donc pour nous, oui, c'est aussi une première vraie organisation, on va dire.
Voilà, c'est la première fois qu'on monte un événement de toutes pièces vraiment à deux, et c'est une discipline qui a besoin d'événements pour s'agrandir. Donc il y a que quelques événements en France, on les compte sur le doigt d'une main, hein, donc... C'est sûr que pouvoir avoir la chance de faire la première en Rhône-Alpes, c'est sympa.
Donc l'objectif, c'est évidemment de réitérer l'événement sur plusieurs années. Hein.
Afin de perdurer cette discipline en Rhône-Alpes.
Vous avez fait d'autres choses avant ?
Alors moi, oui, moi j'ai fait de l'organisation un peu en trail, donc de par sur Cré, le Challenge Vallée de la Drôme, le trail de Mirmande, Glandas Trail, du coup, plus proche de chez nous à Châtillon. Donc moi j'ai fait un petit peu d'organisation, donc j'ai pu avoir quelques petites bases, enfin sans prétention, hein, vraiment quelques petites clés pour faire l'organisation d'un événement. Et sinon après moi en vélo, je suis pas spécialiste du vélo de descente, hein, c'est plus Léo qui gère la partie sportive.
C'est ça, pour moi donc c'était vraiment pour amener le sport à rayonner, on va dire. Dans le sens où moi j'avais jamais fait, donc j'avais jamais organisé d'événement. C'est vraiment une grande première, c'est pour ça que je me suis un peu associé avec Mathieu, on va dire.
C'est quoi le VTT de descente ?
Alors VTT de descente, donc c'est une discipline, comme son nom l'indique, qui consiste à descendre, évidemment. Donc c'est du VTT, donc du vélo tout terrain. Donc nous on est sur de l'urbain, donc c'est-à-dire que on part d'un point A situé plus en hauteur que l'arrivée, et on descend donc sur un parcours qui est généralement jalonné d'obstacles. Donc on peut avoir pour cela des modules en bois, donc des sauts, des virages relevés qui viennent en fait pimenter la course, et l'objectif c'est de mettre le moins de temps pour descendre et d'arriver le premier en bas, on va dire.
Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont organisées vraiment officielles, ou c'est que des événements comme ça un peu parsemés de partout en France ?
Alors en VTT de descente, oui, il y a des championnats de France, championnats du monde. En urbain c'est plus rare, donc c'est ça qui est un peu recherché aussi par les pilotes, parce que c'est un événement qui est assez occasionnel, qui n'est pas répandu, on va dire.
Voilà. C'est quelque chose d'assez unique en fait. Enfin, là, ils ont la chance de pouvoir dévaler les rues de Cré à toute vitesse. Évidemment, hors du cadre de cette course, c'est pour ça aussi qu'on ne dévoile pas notre parcours pour l'instant. C'est que c'est clairement pas possible. Hein. C'est des ruelles qui vont faire entre 2 mètres de large pour les plus étroites à 3-4 mètres. Alors, on ne peut clairement pas imaginer de descendre à fond en vélo à l'intérieur si le parcours n'est pas fermé. Donc, en dehors de ces différentes de ces manifestations, c'est une discipline qui n'est pas vraiment praticable au plus grand nombre sur de longues distances. C'est aussi l'avantage de ce genre d'événement qui permet du coup privatiser clairement le parcours pour offrir aux pilotes une belle expérience de descente.
Ça s'organise comment, une course de VTT ?
Eh ben, tout commence déjà, nous on est sur une commune, hein, donc il nous faut des autorisations. Donc premièrement c'est rentrer en contact avec la mairie afin de vendre un petit peu son projet, de montrer les atouts que ça peut apporter à la mairie, à la ville, donc comment on veut promouvoir, enfin à travers la promotion de territoire et compagnie. Une fois qu'on a ces autorisations, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Une fois qu'on a toujours l'idée de l'événement, on l'a assez rapidement, mais après rapidement on se rend compte que tout coûte des sous. tout a un budget. Et donc, il faut arriver à se constituer un budget. Et c'est la partie la plus compliquée en soi, parce que arriver à trouver des financements, que ce soit par des subventions ou que ce soit par des partenaires privés, c'est la partie la plus compliquée. Et arriver à convaincre des personnes de s'investir financièrement dans ce genre d'organisation, mine de rien, c'est pas anodin. Donc faut arriver à leur montrer que ça peut leur rapporter au niveau image. Et voilà, après, donc c'est sûr que c'est la partie la plus la plus compliquée, entre guillemets, et après ça roule, hein. C'est beaucoup plus simple.
C'est quoi qui coûte dans un événement pareil?
Dans un événement pareil, il y a plein de choses en fait. Rien quand on regarde, nous, un des premiers postes de dépenses, c'est par exemple, nous on fait une course, donc c'est-à-dire qu'il faut du chronométrage. Donc ce chronométrage, c'est le chronométrage à puce. Donc on place des puces électroniques sur les vélos, et ça c'est un prestataire qui le fait. Nous en fait, on est juste l'association organisatrice, mais on ne dispose pas de matériel, de technologie, tout ça on dispose de rien. Donc c'est sûr que nous on est obligé de faire appel à des prestataires pour tout, que ce soit pour la nourriture, pour les différentes prestations de type chronométrage. Et après il y a l'autre gros poste de dépense, c'est la sécurité. On imagine bien que nous, on engage notre responsabilité en faisant descendre des pilotes à l'intérieur de la ville de Cré. Donc nous, il faut faut que l'association soit couverte au niveau sécurité. Donc ça passe par des assurances, ça passe par une équipe de sécurité qui est présente. Et tout ça, tout coûte des sous en fait.
Les sous, vous les récupérez comment après?
Donc ça, on a plusieurs moyens. Déjà des subventions, donc là, de par la CAF, la région... Ouais. Donc plein de choses comme ça. Après, il y a aussi beaucoup de partenaires qu'on va essayer de démarcher. Donc,
que ce soit du partenaire privé type Intermarché, des magasins spécialisés, tout ça, ça c'est des partenaires privés où on leur vend du coup de la place pour leur marque, pour leur logo, pour avoir un stand au sein de notre village événement et compagnie.
Et du coup, ça peut nous faire donc du partenariat. On peut dire
Du partenariat
financier. Voilà, après, on peut aussi avoir du partenariat technique, donc de l'aide logistique.
Par exemple, ça, c'est le cas de la ville. La ville, pour l'instant, on n'a pas de subvention allouée par la ville, mais par contre, on a un gros partenariat logistique. C'est-à-dire que, on a la mise à disposition de services techniques, on a la mise à disposition de chalets pour l'organisation, de barriérages. Ça, c'est toutes des choses qui ont des coûts, mais qui ne rentrent pas dans notre prévisionnel financier, ça ne rentre pas comme une ligne de dépenses qui va nous coûter tant. Tant dans le prévisionnel, c'est de l'aide logistique. Puis après, il y a une de nos sources de financement, c'est l'inscription. C'est une inscription qui est payante. Et donc évidemment, ça rentre dans nos comptes.
Sans non plus le dévoiler le parcours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera où cette course?
Donc course dans Cré, évidemment. Donc on part du sommet de Cré,
du château d'eau de l'antenne de Radio Saint-Ferréol. juste en haut de la ville de Cré pour une arrivée Courjou-Bernon, donc plein centre ville de Cré, juste à côté de la mairie. Donc 1 km de descente pour environ 100 à 130 mètres de négatif.
Et donc c'est un parcours qui alterne donc avec une partie premier plan sentier et enfin une seconde partie donc dans les rues de Cré avec des marches évidemment, des escaliers et des virages dans le centre-ville.
Est-ce que vous avez mis des prévisions un peu des... Est-ce que vous avez tenté de voir le futur, on va dire?
Bien sûr. Sinon, si on fait au jour le jour, ça ne le fait pas. Donc, nous, on ouvre nos inscriptions le dimanche 7 avril. Bon, on a 2 semaines de retard sur ce qu'on avait annoncé à la base, mais c'est dû à une validation de règlement. Nous, du coup, on ouvre nos inscriptions le 7 avril, donc ces inscriptions en ligne, et donc on ouvre à 100 pilotes uniquement. De part pour des contraintes techniques d'organisation, tout simplement. Les pilotes partent toutes les 1 minute. Et donc, ça fait 2 fois 1 heure. On a 2 descentes, donc ça fait 2 fois 1h40 de départ. On compte 2 heures pour être sûr, parce qu'il y a des départs qui vont être manqués, il y a ce genre de choses. C'est des aléas qui arrivent assez souvent. Et mine de rien, caler 4 heures de descente dans une journée, c'est beaucoup. Et donc, au niveau contraintes d'organisation, c'est quand même assez lourd. Donc, on est obligé de limiter à 100 pilotes, puis c'est notre première organisation, donc mieux vaut pas avoir trop grand pour la première, et puis pour la deuxième, par contre, on fera quelque chose de plus grand.
Du coup, oui, ça c'est pour la partie pilote, donc on en attend 100, et après, évidemment, il y a aussi les spectateurs, hein, donc là, on est clairement sur beaucoup plus. 200,
voilà, on attend entre 250-300 spectateurs environ sur l'événement. Donc ils seront répartis sur des zones publiques qui seront réservées, donc à des endroits sécurisés pour qu'ils puissent voir passer les pilotes pleine balle dans les rues de Cré.
Ça s'installe comment, une aire d'arrivée, une aire de départ et tout le trajet au milieu?
Alors, moi, je vais peut-être faire partie du coup, décrire la partie qui me concerne le plus, c'est l'aire d'arrivée. L'aire d'arrivée, c'est tout. En fait, on a une ligne d'arrivée qui est tracée, donc avec tout simplement un tapis électronique pour faire biper les puces. Et puis après, derrière, on a toute une partie restauration avec des repas pour les pilotes, une partie buvette, toute la partie organisation, donc avec des petits chalets qui nous sont prêtés par la ville pour le retrait des dossards, pour le PC sécurité, pour les secours. Et donc toute la partie restauration, et puis toute la partie partenaire qui est quand même vachement importante. Donc toute la partie partenaire, c'est des endroits de la visibilité du coup pour nos différents partenaires au sein de cette arrivée. Du coup, il y aura des stands pour les partenaires afin s'ils veulent vendre des produits, faire connaître leur marque. Faire développer tout ça. Après, du coup, pour le parcours à l'heure de départ, c'est plus la partie de Léo, la partie sportive.
Du côté du départ, on est sur quelque chose d'assez classique. On a un chronométreur qui met des puces sur les vélos pour celles qui ne seront pas installées. Et donc voilà, donc ça c'est assez simple à mettre en place. Après, au niveau de la descente, on a un balisage qui doit être continu du haut du parcours jusqu'à l'arrivée. Donc ça met en œuvre un nombre assez conséquent de barrières. Aussi des matelas de protection, donc ça c'est pour protéger les pilotes. Et enfin, ça c'est de la rubalise aussi qui doit faire.
En fait, c'est simple, le pilote ne doit avoir qu'un chemin possible du début à la fin, il doit surtout avoir un chemin visuel. C'est-à-dire que s'il démarre avec une rubalise rouge de chaque côté, il doit tout le temps avoir cette rubalise rouge de chaque côté. Au moins il sait que c'est visuel, les pilotes ils descendent, ils montent à 30-40 km/h dans les rues de Cré, il faut qu'ils sachent exactement où passer et anticiper toute leur trajectoire. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des reconnaissances le matin.
Vous l'avez testé le parcours en VTT ?
Alors oui, moi je l'ai testé, donc déjà d'une part pour le choisir, et après d'autre part pour pouvoir publier notre teaser qu'on a mis en ligne déjà il y a à peu près 3 semaines. Donc c'est un teaser vidéo qui montre quelques extraits de la descente, et du coup cette descente a été testée, pour voir aussi le temps qu'on mettait à peu près pour la descendre. Donc voilà.
Il y a des animations autres que la course, un peu plus particulières autour du VTT, autour d'autres choses?
Alors c'est vrai que la descente concerne beaucoup du coup nos 100 pilotes qu'on va pouvoir réunir, mais après tout le public, pour faire vivre une belle expérience, nous on va avoir en bas du coup sur la ligne d'arrivée donc un speaker, et puis surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a le chronométrage, c'est du chronométrage direct, en direct, qui passe par de la 4G tout simplement, qui est remis intégralement sur un site internet en live, et du coup on a un tapis de chronométrage en temps intermédiaire, et du coup ça permet de vraiment faire vivre de voir si par exemple le pilote un tel est passé premier sur l'intermédiaire, est-ce qu'il va tenir jusqu'en bas à l'entrée du passage technique. Voilà, on a un projet également de vidéo sur écran géant, c'est quelque chose qui est compliqué de par les coûts que ça représente, mais c'est un vrai projet qu'on a, donc on va voir, suivant les financements qu'on a, on arrivera peut-être à faire de la vidéo sur écran géant en bas.
Il sera où le public? Il trouvera où sa place? Dans des petites rues comme ça, ou dans des croisements peut-être, je sais pas, mais...
Alors déjà le public en zone d'arrivée évidemment, pour voir les pilotes arriver, et effectivement comme le disait Mathieu tout à l'heure, on aura sans doute une retransmission sur écran géant, donc pareil qui sera placé au niveau de l'arrivée, donc ça permet de suivre les pilotes en temps réel. Grâce à des caméras qui seront en live, il y en aura sans doute deux, je pense,
voilà,
dans le parcours. Et bien sûr, on aura aussi des aires de pour le public tout au long du parcours, donc ça sur des ruelles, un peu plus larges en fait. Et donc ça nous permet de sécuriser des zones pour placer le public et être vraiment au cœur de la course. Quoi.
Voilà, ce qui est important de préciser, c'est que le parcours est totalement bloqué. Les seules personnes qui ont le droit d'être sur le parcours, c'est les bénévoles de l'organisation, et ils sont à des endroits très précis, pas des endroits sécurisés, ils sont pas n'importe où. Et sinon, évidemment, le public sera situé derrière des barrières à des endroits qu'on aura choisi nous afin de les mettre en sécurité et d'être sûr de pas avoir de problème avec un enfant qui traverse ou ce genre de choses.
Est-ce que Léo va piloter ?
Alors moi, je ne vais pas piloter en tant que coureur pour faire la course, mais en tant qu'ouvreur. Donc ça peut simplement pour la sécurité. Donc avant chaque départ, il y a un ouvreur qui sert à voir si le parcours est bien mis en place, s'il n'y a pas d'obstacle ou que ce soit sur la chaussée. Et donc voilà, donc moi je serai ouvreur le jour de l'événement.
Pas frustré de ne pas pouvoir faire la course ?
Ah bah non, bah c'est sûr que quand on est du côté de l'organisation, on a d'autres prérogatives et c'est aussi quelque chose qui
est passionnant aussi.
Passionnant, c'est clair que c'est pas la même ambiance.
Est-ce que vous voudriez la passer l'organisation une année suivante pour pouvoir la faire cette course ?
Ah. C'est pas vraiment dans les plans. Non, c'est plutôt nous on se lance. Moi personnellement, en projet professionnel derrière, j'ai envie de continuer dans l'organisation sportive. Donc c'est une première expérience et l'année prochaine, si ça réussit cette année, on a déjà des projets pour l'année prochaine. C'est sûr que nous, c'est quelque chose où on monte une année, c'est pas pour passer la main l'année d'après, c'est pour créer notre événement vraiment à nous.
Vous communiquez comment sur l'événement, de manière générale ou sur l'association ?
Alors maintenant, la communication, elle passe quasiment entièrement sur Internet, par les réseaux sociaux. C'est même plus du site Internet. Pour l'instant, on n'a toujours pas de site Internet. Et l'envie s'en fait presque même pas sentir parce que c'est même pas par là que ça passe. C'est-à-dire que pour l'instant, on passe vraiment par de la communication réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Et c'est quelque chose qui marche mais royalement bien parce que maintenant quasiment tout le monde a un compte Facebook et va regarder ce qui se passe. Et c'est comme ça que ça marche principalement. On a aussi de la communication papier qui sera mise en place, mais ça c'est plus pour le public. Mais sinon tout passe par Internet maintenant.
Ça mobilise combien de personnes au niveau du staff et de l'organisation pour la faire cette course ?
Alors au niveau bénévole, on est sur une cinquantaine de bénévoles à peu près, tout au long du parcours. Déjà, il y a un nombre de signaleurs assez important. Donc là, on est déjà sur
29 signaleurs. Ouais, sur la dernière carte du parcours qu'on avait à l'idée, c'est 29 signaleurs qui sont présents sur le parcours. C'est-à-dire que sur 1 km de descente, on a 29 personnes qui sont sur le parcours.
Donc ça, c'est pour sécuriser le parcours. Donc déjà, ça nous fait 29 personnes rien que sur la descente. On a aussi donc du bénévole pour assurer... le retrait des dossards, la buvette, aussi bien sûr les remontées, parce que donc les remontées se font par le biais de navettes, parce que comme la discipline l'impose, c'est de la descente, c'est pas de la montée. Donc les montées sont assurées par des navettes.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé le format. Donc le format de notre événement, c'est on a deux cours, deux descentes. Donc qui sont précédées d'une reconnaissance à pied obligatoire par tous les pilotes, une descente le matin. Un temps de repas à midi et une descente l'après-midi. Et à l'issue de ces deux descentes, on additionne le temps des deux descentes de chaque pilote, on détermine un classement et on prend le top 20 de ce classement qu'on remonte en haut du parcours pour s'affronter et pour déterminer du coup ce fameux top 20 à la fin de cette troisième descente qui sert de super finale. Voilà.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un règlement de course. C'est quoi exactement ?
Un règlement, c'est à chaque fois qu'on monte un événement, en fait, en même temps qu'on s'inscrit, on valide un règlement, on accepte ce règlement. Donc ça, c'est chaque concurrent qui est obligé de l'accepter. Tout simplement, en fait, c'est les conditions de participation que l'association organisatrice, donc en l'occurrence l'association La 32e, impose à tous ses participants. Alors ça va être du matériel obligatoire, en matériel obligatoire...
Attends,
j'ai
pas dit par exemple. Ouais, pardon. Par exemple,
du matériel obligatoire. Par exemple, on a casque intégral, coudière, genouillère, dorsale et un vélo qui intègre au moins une suspension avant. Donc ça, du coup, c'est pour la protection du pilote. Et ça va par exemple des conditions de remboursement en cas d'annulation. Enfin, c'est vraiment en fait tout ce qui concerne l'événement et tout sur lequel nous, du coup, on se protège. Toutes les règles de l'événement sont inscrites dans ce règlement. Et ce règlement, on est obligé de le faire valider par la fédération la FFC.
Qui concerne l'événement.
Voilà, qui concerne l'événement. Donc la FFC, donc la Fédération Française de Cyclisme. Et cette fédération, elle nous valide ce règlement en nous disant là, vous avez fait des choses dans les règles, ou alors, par exemple, il vous manque du matériel obligatoire, il faut imposer ça en plus. C'est des petits trucs auxquels l'organisateur pense pas forcément, et c'est la fédération qui le valide.
D'autres choses à rajouter ?
Je crois qu'on a fait le tour, mais je dis rendez-vous le 7 avril pour l'ouverture des inscriptions, et sinon bah, le 1er septembre à créer pour ce magnifique événement.
C'est où les inscriptions ?
Donc inscription sur la plateforme en ligne lesportif.com, donc à partir du 7 avril, comme on l'a pas dit. Et du coup, voilà.
Ouais, sur, en ligne, sur tout se passe en ligne, le règlement, le dépôt des documents officiels, et tout se dépose en ligne.
Eh bien, merci à vous. On va pouvoir clôturer cette interview. C'était l'association La 32e qui venait parler de la DH Urban Rice. C'est ça, je me trompe pas ?
C'est ça, ouais.
Qui se passe donc le 1er septembre à Cré. Et les inscriptions pour les pilotes débutent le 7 avril. Vous retrouvez cette interview en podcast sur rdva.fr et en direct sur 107.5 FM. Merci à vous.
Bah, merci beaucoup.
Interview. Ok, de beurre.
L'interview du jour.